Bonjour à tous. Si je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année, bien j'aimerais vraiment vous en profiter ce matin pour vous souhaiter une bonne année dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment cette année. Merci à l'équipe de Louange. Ils ont travaillé pas mal fort toute la fin de semaine. Hier, il y avait le mariage de David et Julie. Ils sont en voyage de noces et on est bien heureux pour eux. C'était un beau mariage. Vraiment, le clou de la soirée, tant qu'à moi, c'était lorsque Alexandre a imité Céline Dion. Puis ça a l'air, puis pas ça a l'air, c'était vraiment bon. Hein? Pour ceux qui étaient là, est-ce qu'il y en avait qui étaient là, levez la main, là? Pas nombreux, là, mais c'était bon, hein? Il a bien fait ça, hein? Fait que, il y a une petite carrière qui se cache, Alexandre, si jamais tu te cherches du travail. C'est bon. Un beau mariage. À travers les années, une des choses que je remarque, qui revient très souvent dans mes rencontres avec les gens, c'est parfois la frustration, parfois c'est la tristesse, parfois c'est la colère, d'attendre après Dieu. Il y a toutes sortes de situations qui se présentent dans la vie, puis là, des fois, tu es placé dans une situation où tu es obligé d'attendre Dieu. Tu es obligé d'attendre après Dieu. Tu pries, et il me semble que les requêtes sont là, sont nombreuses, pour toutes sortes de contextes, dans toutes sortes de contextes. Puis on dirait que le Seigneur te fait attendre. Une des choses, ça, vraiment, là, propre à la vie chrétienne, c'est d'attendre. Il y a toutes sortes de contextes, par exemple, le célibataire. Il y a des célibataires qui sont très heureux d'être célibataires. Ils sont heureux d'être comme ça, puis c'est comme s'ils ne veulent pas se marier. Ils sont très heureux, ils s'épanouissent comme ça. C'est correct, c'est super. D'autres personnes veulent se marier. Quand tu vois des gens autour de toi, tes amis, là, comme David et Julie qui se sont mariés hier, là, tu vieillis, puis tu regardes tous tes amis qui, tranquillement, un après l'autre, se marient. Et là, tu peux te sentir un peu isolé, puis tu te dis, bon, hein, comment ça se fait que moi, je trouve pas personne, t'sais. Puis tu veux trouver quelqu'un. Et c'est correct aussi, c'est le Seigneur qui a bâti, qui a institué le mariage, et c'est tout à fait, c'est beau, c'est une bénédiction, c'est bien. Mais des fois, tu as cette frustration-là, parfois même la colère, on rencontre ça. Dans nos rencontres, des fois dans nos échanges, des gens qui sont en colère, d'autres sont tristes, tout simplement, d'attendre, ils prient, puis on dirait que le timing de Dieu, on dirait que c'est jamais comme notre timing. Son temps, son calendrier, son horaire, on dirait que c'est jamais comme le nôtre. Et là, tu es là, puis tu vis ces frustrations-là, tu ne comprends pas pourquoi. D'autres situations, c'est la maladie. Une des choses qu'on souhaite en ce moment, c'est la nouvelle année. Une des choses qu'on va entendre souvent. « Je te souhaite de la santé! » La voisine est sortie l'autre jour, on s'est croisés, puis tu m'as regardé, elle dit « Normand, comment ça va la santé? » Puis je dis « Ah, ça va bien, super. » Fait qu'elle dit « Bien, je te souhaite cette année de la santé. » Elle dit « C'est tout ce qui compte, la santé. » Je dis « Ah, oui, moi aussi, je te souhaite la santé, tout ça. » Eh bien, quand tu tombes malade, hein, c'est une des choses, tu vas prier, tu vas demander à Dieu d'intervenir, faire quelque chose, mon ami. C'est une épreuve, la santé. Surtout quand ça touche un membre de ta famille, très proche, ça, c'est particulièrement difficile. Et là, tu ne comprends pas pourquoi Dieu attend avant d'exaucer ta prière. Hein. Tu fais plein de prières, mais on dirait que le Seigneur n'exauce pas. Il attend. Ça, c'est une des choses qui est frustrante, qui peut même lui mettre en colère. D'autres fois, si tu veux partir en affaires, tu fais un start-up, ce qu'on appelle, là, tu pars en affaires, puis tu es là, tu as laissé ton emploi, puis tu as mis de l'argent de côté, tu te pars une entreprise, tu es tellement content, puis tu veux, tu investis, puis tu prends des risques. C'est un gros risque, hein. Ils disent 30%, je ne me souviens pas c'est quoi le pourcentage là, de start-up. Finissent après dans deux ans. C'est tout un défi. Là, tu es là, tu es plein d'enthousiasme. Tu dis, hey, j'ai le Seigneur avec moi, ça va aller bien. Puis, tu avances, puis tout ça. Puis là, le téléphone ne sonne pas. Tu n'as pas de commande. Ça n'avance pas comme tu aurais voulu. Et tu pries. Comment comprendre les délais de Dieu? Pourquoi Dieu te fait attendre? Et comment faire face à tout ça? Eh bien, on va justement regarder une histoire ce matin. C'est une histoire qu'on a déjà vue, une histoire qu'on voit périodiquement. On a besoin de s'arrêter régulièrement, au moins une fois par année, en tout cas, surtout à ce passage-là, parce que c'est tellement propice, c'est exactement ce que ça l'adresse, c'est exactement ce qu'une personne va vivre. C'est vraiment l'histoire d'un chef de synagogue. C'était un chef d'entreprise aussi. Les chefs de synagogue, c'était un laïc, président de la synagogue, c'était pas des gens qu'on pourrait appeler, entre guillemets, dans le ministère, en quelque sorte, pas nécessairement des rabbins, tout ça. C'est un laïc, président de synagogue, une personne qui est en affaires, en entreprise, qui a très bien réussi dans la vie. C'est une personne qui était au sommet vraiment de l'échelle sociale. Très bien en vue, respectable, une personne consacrée, un homme de Dieu, pieux. Et là, sa fille tombe malade. Sa fille tombe malade assez sérieusement, au point même qu'elle est sur le point de mourir. Une personne qui va se diriger, qui va entendre parler de Jésus, entendu parler des miracles qu'il fait, donc il va se diriger vers Jésus pour aller le voir et lui demander de vraiment intervenir, de venir avec lui, aller voir sa fille, toucher sa fille pour qu'elle puisse guérir. Et le Seigneur est bien content, le Seigneur va se diriger. C'est à peu près comme s'il prenait l'ambulance. Tu sais, t'appelles l'urgence, tu arrives, tu viens, tu t'embarques dans l'ambulance. Là, tu sais. Là, d'un coup, à mi-chemin, c'est comme si l'ambulancier arrêtait. Puis toi, ton fils, tu viens d'avoir un accident, ton fils s'est blessé, puis c'est très sérieux. Tu ne sais pas ce qui arrive, il a de la misère à respirer, tout ça, il est avec les machines, tout ça. Tu pars, tu es là dans l'ambulance, tu vas vite, ça roule, tu pars, l'ambulancier passe à travers les lumières rouges, les feux de circulation, ça va. D'un coup, il arrête le moment donné, la lumière rouge, commence à jaser une femme, parce qu'une femme a des questions, parce qu'elle a le mal à la gorge. Il commence à jaser, là. Elle a le mal à la gorge, elle veut savoir si c'est-tu des aspirines que je prends, si c'est des Tylenol, qu'est-ce que je devrais faire. Puis il est là, il sort du camion, commence à jaser. Tu sais, okay, tu as tel sirop, ça va vraiment t'aider pour ton rhume, ta grippe, quelque chose. T'sais. Là, toi, tu es en arrière avec ton enfant, puis ton enfant, tu ne sais même pas s'il va mourir, tu ne sais même pas ce qui va se passer. Et là, je peux-tu te dire une affaire que tu ne seras pas vraiment content avec l'ambulancier? Tu ne seras pas vraiment content après le chauffeur. Tu vas faire des plaintes. Hein? Tu ne seras vraiment pas content parce qu'il me semble un rhume à comparer de ce qui se passe avec mon fils. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Eh bien, c'est sensiblement ce qui va se passer dans l'histoire qu'on va voir. Ça. C'est deux situations qui est triste parce que c'est deux personnes malades. Il y en a une qui est beaucoup plus sérieuse que l'autre. C'est qu'une personne, tu avais de mourir. C'est pas mal plus sérieux là, que l'autre. Alors l'autre, ça fait 12 ans qu'elle est malade, puis c'est chronique. Donc, une couple d'heures de plus, là, entre toi et moi, là, ça fait 12 ans. C'est pas trop pire à comparer de l'autre que ma fille t'avait de mourir. Mais là, le Seigneur, pour une raison qu'on ignore, mais qu'on va apprendre à travers l'histoire, le Seigneur décide de débarquer de l'ambulance. Commence à jaser avec une femme qui était vraiment pas dans le même état de santé que la fille qui était sur le bord de mourir. Et cette histoire-là va nous apprendre, parce que lui est obligé d'attendre. Ce bonhomme-là, le chef de la synagogue, est obligé d'attendre. Le Seigneur Jésus lui a décidé de le faire attendre. Et pourquoi? Comment tu dis avec ça? Alors, l'histoire va nous enseigner ça, puis on a besoin vraiment de s'arrêter sur cette histoire-là, parce qu'on a des choses à apprendre, et ça va nous arriver encore cette année. Le Seigneur va décider, dans sa souveraineté, à un moment donné, de nous faire attendre. Donc, moi, j'aimerais vous encourager à tourner dans un passage qui se trouve Marc, chapitre 5. Marc 5, verset 22. Maintenant, c'est un long passage. On aurait pu choisir de lire juste une portion du passage, mais c'est une histoire, hein? C'est un texte qu'on appelle un genre narratif. Alors, c'est sûr que quand c'est une histoire, c'est à peu près comme un film, le scénario est assez long. Alors, ici, c'est une longue histoire, mais j'ai fait le choix ce matin, ce qu'on va faire, on va lire au complet. Là, vous allez voir tout ce qui se passe, vous allez connaître toute la scène, ce qui arrive dans le contexte. Vous allez voir le début et la fin de ce qui s'est produit. D'accord? Juste avant, on va demander au Seigneur de bénir ce temps-là ensemble. Eh bien, Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ce temps ensemble. Et on te loue pour David et Julie. C'est une belle saison de leur vie. Et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. On est content pour eux, Seigneur, et pour cette bénédiction que tu préparais longtemps d'avance pour eux. On te prie que tu puisses continuer à les bénir abondamment. Il y en a d'autres, par contre, Seigneur, on pense à M. Lord qui a perdu sa tendre épouse. Et d'autres, Seigneur, qui sont dans une saison de leur vie très difficile. Et on te prie que tu puisses les consoler et mettre ta main sur ceux qui sont malades dans l'Assemblée, les encourager, les entourer de ta bonne grâce, ta bonne main. Seigneur, on a besoin d'apprendre ces leçons qu'on va voir ce matin. On a tellement besoin d'apprendre ces choses-là. Parce que ça arrive qu'on va attendre. On va avoir des situations qu'on ne comprend pas. Ça nous dépasse. Et là, Seigneur, on a besoin vraiment de s'appuyer sur toi. Aide-nous dans ces moments-là. Enseigne-nous ce matin par ton esprit. Ouvre-nous les leçons précieuses et profondes de cette histoire que tu veux faire ressortir, que nous avons besoin d'entendre. Et puisses-tu les imprimer dans notre cœur. On a besoin, Seigneur, de comprendre ces choses pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Marc, chapitre 5, verset 21. Oui, je sais, tu as dit 22. 22. Je me suis presque fait chicaner la première heure. Hey, c'est 22, c'est pas 21. Mais c'est on va lire verset 21. Je ne sais pas pourquoi j'écris 22. Ça aurait dû être 21, dans le fond. Ça n'a pas de bon sens de commencer à 22. Donc, on commence par verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui et était sur le bord du lac. Alors, vint un des chefs de synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état était plutôt même empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Si tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors lui dit Jésus, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand les gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? » Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laissait pas personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques, Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient, poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entrait là où l'enfant était couché. Il l'a pris par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Le délai de Jésus. Dès le début de l'histoire, on apprend, on rencontre ce Jaïrus, on donne des détails sur lui, c'est un chef de synagogue, ce qui signifie que c'est un homme très important, vraiment au sommet de l'échelle sociale, un laïc. Il aurait été un homme de Dieu, un homme consacré, un homme pieux, de haute moralité, respectable. Probablement riche, c'était probablement un homme d'affaires, une personne importante, très en vue. Mais il est désespéré parce que sa fille est mourante, elle est très malade, puis elle est mourante. Il dit d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le verset 23, « Ma petite fille est sur le point de mourir. » Alors, si Jésus ne va pas rencontrer sa fille, elle va mourir. Maintenant, Jésus accepte d'y aller. Alors, vous pouvez imaginer la joie de cet homme-là, la joie de Jaïrus. Mais en même temps, il y a tout ce stress de parents, vous savez, alors que votre fille... Vous ne savez pas si vous êtes pour arriver à temps, vous êtes pressé par le temps. Alors, il y a ce stress-là, Jaïrus, pour savoir s'ils vont vraiment arriver. Alors, je peux imaginer là, qu'il doit marcher, presser le pas, marcher assez vite, faire de la marche rapide, là, parce qu'il veut vraiment amener tout le monde assez vite, amener Jésus assez vite à la maison pour arriver juste à temps, avant qu'elle meure. Mais là, tout d'un coup, alors que Jésus est en train de marcher pour se rendre chez Jaïrus, il sent une force sortir de lui. Alors, on lit au verset 30, Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force est sortie de lui. Il sait qu'une guérison vient d'avoir lieu. Alors, il arrête tout. Tout arrête. Verset 30, on continue. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Et là, tout d'un coup, il voit, il repère la femme, c'est qui, elle sort, elle est gênée et tout ça, elle est nerveuse. Mais il la sort. Rend public, finalement, l'expose au grand jour. Et là, il commence à avoir une discussion avec elle. Elle est déjà guérie à ce point-ci. Elle a eu un miracle dans vraiment une guérison. Elle l'a senti, tout ça. Mais Jésus commence à jaser avec elle. Commence à avoir une discussion avec elle. Alors, vous pouvez imaginer l'horreur de Jairus. Imaginez, là, vous êtes parent, là, votre enfant est sur le bord de mourir. Vous êtes en chemin, vous pressez le pas. Sans presser, tu veux te rendre. Et tout d'un coup, Jésus commence à parler avec une femme qui a déjà été guérie, dans le fond. Elle a déjà guéri. Elle a déjà eu ce qu'elle voulait. Puis là, Jésus commence à jaser avec elle. Alors, vous pouvez juste imaginer le stress, l'horreur de Jairus, la confusion des disciples aussi, puis de la foule. C'est vraiment peur. Ça fait comprendre. Voici une femme qui a un problème chronique depuis 12 ans. Puis de l'autre côté, il y a une fille qui est sur le bord de mourir. Alors, entre toi et moi, ça peut attendre une couple d'heures. Tu sais? Prendre un rendez-vous avec elle, dis, écoute, j'ai des choses à discuter, c'est pas mal important, mais là, écoute, il faut que je me dépêche. Les gens se seraient attendus à ça. Il faut que je me dépêche, écoute, parle à ma secrétaire, parle à mes disciples en arrière, là, puis tout ça. Ils vont prendre mon calendrier, j'ai un horaire vraiment rempli ces jours-ci, là, c'est pas mal occupé. Donc, ils vont prendre ton nom, ton numéro de cellulaire, on prend ça, on se rencontre cette semaine, on jase, d'accord? Parce que moi, j'ai quelque chose de pas mal de pressant. Les gens s'attendaient à ça, les disciples s'attendaient à ça. Jairus, le premier, s'attendait à ça. N'est-ce pas? Toi-même, tu serais dans cette situation-là. Tu serais attendu à ça. C'est pas ce qui arrive. Jésus commence à jaser avec cette femme. Là, moi, je peux te dire en affaire que Jairus regarde Jésus, puis dans le de ta tête, là, c'est comme la colère monte. Tu sais comment tu te sens dans ce temps-là? Colère monte. Là, écoute, ça n'a pas d'allure. Là. Il y a de l'injustice. Là. Ça n'a pas de bon sens. Parce que on le sait, intuitivement aussi, bien même quand tu t'en vas dans l'urgence, tu es malade, tu t'en vas à l'urgence, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? C'est que l'infirmière ou la secrétaire médicale va te demander des questions, va te demander qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que vous avez. Moi, quand je suis rentré à l'hôpital, j'avais un pied cassé, tout ça. Fait que, je n'étais même pas sûr que c'était cassé, mais c'était comme assez enflé. Alors, je rentre, puis à l'urgence, ici, oui, vous savez c'est où? Gatineau. Fait qu'on rentre à l'urgence, à Gatineau, tu sais, puis c'est le soir. Fait qu'on te demande, qu'est-ce que tu as? Ben, j'ai dit, j'ai eu un blessé, je me suis blessé, j'ai tombé les marches et tout ça. Là. Fait que, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un triage. C'est juste aussi, c'est correct. Elle va faire un triage. En d'autres mots, ce qu'elle veut savoir, elle va déterminer la gravité, elle va mettre en priorité la gravité des blessures, puis de la maladie ou des cas. C'est correct, c'est ça, c'est sûr. Moi, si quelqu'un est en train de mourir, en train de faire une crise cardiaque, et moi j'ai mal aux pieds, entre tout et moi, ça serait logique de faire passer ce gars-là. C'est correct, ça. Tu sais, c'est comme une question de priorité. Alors, tu te serais attendu, et tout le monde autour se serait attendu que Jésus fasse comme priorité d'aller voir cette fille-là qui est mourante. Absolument, c'est tout à fait logique. La femme aurait pu attendre une couple d'heures. Jésus aurait pu la faire attendre. Mais là, Jésus décide de s'arrêter et commencer à parler à cette femme. Complètement illogique. C'est complètement insensé dans la tête des gens. Et non seulement que c'est insensé, mais honnêtement, il serait aujourd'hui, ici, il serait poursuivi. Hein, comme on dit en anglais, malpractice, c'est sûr qu'il serait poursuivi. Parce qu'en décidant, en quelque sorte, de prendre soin de la femme, ou même, on pourrait dire, en décidant de parler avec la femme, il est en train de décider que la petite fille allait mourir. C'est grave, là. C'est très grave. N'importe qui ici aurait dit, excuse, mais veux-tu te dépêcher? Veux-tu te presser? Puis souvent, hein, quand on prie, on vit des choses, on est comme ça avec le Seigneur, on dit, c'est comme, ça presse. Tu sais, Seigneur, exauce-moi, suite. Seigneur, je peux plus attendre, je suis plus capable. On entend ça souvent. Je suis plus capable. Et c'est vrai qu'il y a des situations où tu es rendu là. Moi, je me mets dans les pieds de Jairus, hey, mon ami, tu sais. Ton enfant que t'aimes, là. Je ne sais pas si c'est un enfant unique ou quoi, mais en tout cas, n'importe quel enfant, que tu en aies 10, tu en aies 9. Ça, c'est ma fille, 9. Ils sont tous importants. C'est quelqu'un qui tombe malade, c'est bon de mourir, mon ami, tu es à l'envers, déchiré. C'est pas pressé. Jésus ne se laisse absolument pas presser. Et pendant qu'il a commencé à jaser avec cette femme, ce qui devait arriver est arrivé. Le malheur est arrivé. Un messager de la maison du chef arrive, va dire à Jairus, « Écoute, ta fille est morte. Il est trop tard. » Alors, on pouvait vous imaginer comment Jairus pouvait se sentir à ce point-ci. Le deuil est là, le deuil commence, le deuil est là, puis vous savez, toutes ces émotions, t'as la colère et tout ça. Et là, Jésus va se retourner de bord, puis regarde Jairus. Et moi, je peux imaginer que Jésus regardait Jairus avec un petit sourire, puis lui dit tendrement ceci, « Jairus, n'aie pas peur, n'aie pas peur, crois seulement, fais-moi confiance. » Fais-moi confiance. Jésus est en train de lui dire, quelle que soit la situation, je ne serai pas pressé. La bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu ne semblent jamais s'opérer selon notre horaire. Avez-vous remarqué ça? Selon notre calendrier. On a une vision, on a des attentes à l'égard de Dieu. Nous voulons qu'il agisse selon notre calendrier, notre horaire, notre emploi du temps. Il me semble que ça ne va jamais comme ça. Et là, à un moment donné, tu dis au Seigneur, tu dis, écoute, Seigneur, là, c'est l'heure, là. C'est le temps, là. C'est le temps, hein? Et là, mais regarde ça un peu, là, c'est le temps. Regarde ça un petit peu. C'est le temps. Tu sais, on dit aujourd'hui que tout est relatif. Ça, c'est une affaire qu'on entend au Québec, tout est relatif. Hein? Mais ça, c'est pas vrai. C'est une affirmation qui est fausse. C'est, tout n'est pas relatif. Par exemple, la Bible, c'est pas relatif, c'est un absolu. Il y a des vérités, puis c'est là, c'est un absolu. Mais il y a des choses qui sont relatives. Comme le temps. Le temps, c'est relatif. Vous savez, il s'écrit des livres, toutes sortes de choses aujourd'hui. Il s'écrit 2,2 millions de nouveaux livres ou de nouvelles éditions chaque année dans le monde. 2,2 millions de livres. 300 quelques mille aux États-Unis, 20 000 ici au Canada, 250 000 à peu près en Chine. Elle imagine, on en dit-tu des affaires? On a plein d'affaires à se dire. Puis il y a des livres qui sortent sur toutes sortes de sujets. Imaginez qu'il y a un gars qui a écrit un livre sur le temps. C'est un anthropologue culturel qui a commencé à faire la comparaison, des études comparatives avec les différentes cultures. Puis lui, il s'est posé la question qu'il s'est posée, c'était celle-ci. Il s'est dit, OK, c'est quoi être en retard dans différentes cultures? En d'autres mots, quand est-ce que tu as la sensation que tu devrais vraiment t'excuser de ce que tu es en retard. Hein? C'est quoi? Au Québec, c'est quoi? Tu sais, avant de vraiment dire que tu devrais vraiment t'excuser parce que tu es en retard, c'est quoi? Alors, lui, il a fait une recherche, il a fait une grosse recherche, puis tout ça, c'est un anthropologue culturel, puis il s'est aperçu d'une chose. En Europe du Nord, on peut dire que nous autres aussi, c'est à peu près comme ça, c'est après 10 à 15 minutes, les gens sentent que tu devrais t'excuser d'être en retard. OK? Il a continué sa recherche et s'est aperçu qu'en Amérique latine, c'est après 30 et 45 minutes. Avant ça, tu n'es pas en retard. C'est comme si tu n'étais pas en retard. Puis on ne sent pas de besoin que tu t'excuses, puis toi, tu ne sens pas de besoin de t'excuser. 45 minutes. Après 45 minutes, on dit, ouais, tu t'arrives en retard, je pense. 45 minutes. Il continue sa recherche et s'est aperçu qu'une île qui s'appelle l'île de Yap, vraiment une belle île. Super. Il y a des hommes d'affaires, des gens d'affaires chinois qui ont voulu bâtir un complexe hôtelier avec 4000 unités là-dessus. C'est tout à fait magnifique. Et là, à l'île de Yap, il a découvert que c'est seulement après 2 à 4 heures que tu devrais commencer à dire, peut-être que je devrais... Là, je commence à être en retard. Mais avant 4 heures, personne s'attend à ce que tu t'excuses. Tu n'es pas en retard. C'est juste 4 heures. C'est pas en retard. À 4 heures et quart, peut-être que tu aurais commencé à penser à t'excuser. C'est peut-être... Ouais, c'est vrai, 4 heures et quart, peut-être. Ouais, je m'excuse. Jésus est en train de dire ici, je suis pas en retard. C'est relatif. Pour Jésus, il est jamais en retard. C'est quoi le retard pour Jésus? Ça veut dire quoi? Pour Dieu, t'es en retard. Il n'a pas à s'excuser. Non. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Crois. Fais-moi confiance. Eh bien, lorsqu'on entre dans une relation avec le Seigneur, on va découvrir très vite que le temps de Dieu, c'est jamais notre temps. Son horaire, c'est pas le nôtre. Puis tu vas souvent avoir l'impression que tu as été mis de côté. Tu as l'impression que Dieu remets à plus tard tes besoins, puis que tu es en bas de la liste. Tu sais, la liste de priorités, là. Puis c'est comme, j'imagine, là, tu imagines des fois que Dieu a une grosse liste de requêtes. Puis moi, j'ai parfois l'impression que ma requête, là, est à quelque part en bas, en dessous. Tu trouves pas? T'as senti de même des fois? Non? Je suis seul? Juste là, là. Mais Seigneur, puis ben, des fois, tu as l'impression, peut-être que je devrais prier plus souvent. Peut-être qu'en priant plus souvent, as-tu l'impression des fois que tu pries un peu plus souvent, hop, elle vient de monter 10 feuilles. Hein? On prie encore plus. On prie. Hop, t'es haute, l'autre! 5 feuilles. Puis là, ça revient. As-tu cette impression-là des fois? Ah, on est comme ça. En tout cas, moi, je suis le même. Ouais, mon ami. Puis son horaire, c'est une chose que je découvre avec les années, c'est que son horaire, c'est pas mon horaire. Son calendrier, c'est pas mon calendrier. Mon emploi du temps, ça n'a rien à voir avec son emploi du temps. On a souvent l'impression que le délai de Dieu, c'est même pas raisonnable, c'est même inexcusable, parce qu'à un moment donné, on va même commencer à avoir peut-être un peu de colère. Tu vas sentir comme Jairus. Le temps de Dieu va toujours nous confondre. Quelle que soit notre culture, sa bénédiction ne semble jamais arriver à temps. Sa grâce ne s'opère jamais le moment qu'on la veut, on dirait, en tout cas. Alors, lorsque Jésus dit à Jairus, fais-moi confiance. C'est à peu près comme s'il lève la tête, là, puis te regarde. Jairus, oh, ah! André! Oui! Marc-Claude! J'en ai! Il nous regarde. Il lève la tête, puis il nous regarde tout, là. Puis il est en train de nous dire. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Je suis à l'œuvre, même si ça ne paraît pas. Toi, là, tu ne sais pas, là. J'ai envie de faire quelque chose dans ta vie, puis j'étais parfaitement contrôle. Et John Piper dit quelque chose de vraiment intéressant, je suis en train de lire ça, là, une citation, je trouve ça super. Il dit, vous savez, à tout moment, Dieu est en train de faire 10 000 choses dans ta vie, même si toi, tu es conscient, peut-être que de 2 ou de 3. Tellement bon, c'est vrai. Jésus nous dit, écoute, je vais garder mes promesses, mais je veux que tu réalises que tu ne peux pas me presser. Tu ne peux pas imposer ton horaire, tu ne peux pas imposer ton temps. Tu peux venir à moi avec tes requêtes. Oui, je t'invite à le faire. Tu vas m'encourager à le faire. Faisons-le, la Bible le dit. Priez. Priez sans cesse. Allez-y. Priez, c'est correct. Mais tu ne peux pas me presser. Sais-tu pourquoi? Parce que si tu me presses, tu vas perdre quelque chose de vraiment important. Maintenant, ce n'est pas comme si Jésus disait, tu ne peux pas me presser, mais je t'aime quand même. Oh, je t'aime quand même, là, mais tu ne peux pas me presser. Je te le dis, là, tu ne peux pas me presser. Non, c'est pas ça que le Seigneur est en train de dire. Le Seigneur est en train de dire, tu ne peux pas me presser parce que je t'aime. Ça fait toute la différence. Tu ne peux pas me presser parce que je t'aime. Ça fait vraiment une grosse différence. Je sais ce que je fais. Si tu insistes à m'imposer ton droit, puis ton horaire, ton calendrier, tu vas manquer le bateau. Tu ne saisiras jamais mon amour pour toi. Tu vas passer à côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait quoi? Qu'est-ce qui peut bien nous aider à accepter ces délais-là que le Seigneur nous place parfois, on est en plaçant en plein dedans? Bien, l'histoire qu'on est en train de voir, on va faire sortir quelques angles qu'on veut regarder qui vont nous aider certainement à faire face aux délais de Dieu, aux attentes de Dieu. Premièrement, la sagesse. Regarde la sagesse de Jésus-Christ. Nous, on a de l'information parce qu'on a le Nouveau Testament, on sait ce qui se passe, on connaît la fin de l'histoire, on connaît le dénouement de l'histoire. Mais honnêtement, là, Jairus n'a aucune espèce d'idée de ce qui va se passer. Là. Il ne sait pas ce qui va se passer à la fin de l'histoire. Il ne sait pas que sa fille va ressusciter. Il n'a aucune espèce d'idée. Lui, là, dans sa tête, là, c'est que sa fille va mourir. Maintenant, nous, on a cette information-là. Jésus, cette information-là. Mais personne autour, ni les disciples, ni la foule, ni Jairus, n'ont aucune espèce d'idée de ce qui va se passer. En d'autres mots, Jésus a de l'information que personne d'autre autour n'a. Personne ne sait ce qui va arriver. Seul Jésus sait ce qui va se passer. Donc, une des choses qui va nous aider à accepter les délais de Dieu, c'est de se rappeler, il est sage, il est parfaitement sage. Lui a de l'information que moi, je n'ai pas. Lui, il sait des choses que moi, je ne sais pas. Alors ça, c'est la sagesse de Dieu. En d'autres mots, le temps n'est jamais un problème pour Jésus-Christ. Maintenant, Jésus sait ce qu'il va faire. Il sait d'ailleurs qu'il peut non seulement guérir sa fille, mais il peut même la ressusciter entre les morts. Ce n'est même pas un problème pour lui, un ou l'autre. Ce n'est même pas un problème. Maintenant, lui le sait, mais Jairus ne le sait pas, personne d'autre le sait. Le sachant, quand tu connais toute l'histoire, tout le contexte, et c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle je vais lire au complet au début, lorsque tu connais tout le dénouement de l'histoire, tu connais toute l'histoire, tout ce qui se passe d'un bout à l'autre, là. Le sachant maintenant, on s'aperçoit finalement que le plus pressant n'était pas la fille. Aux yeux de tout le monde, le plus pressant, le plus logique, on va même se mettre en colère parce que Jésus ne respecte pas ça. Et pourtant, quand on connaît toute l'histoire, le plus pressant était de prendre cette femme, la transformer en disciple, transformer sa vie pour l'éternité. Amen. Vois-tu, ce que tout le monde jugeait pressant, tout le monde s'est planté. Tout le monde s'est trompé. Seul Jésus savait la fin de l'histoire. Le sachant, on s'aperçoit finalement que le plus urgent, le plus pressant, c'était cette femme. Quand on regarde les délais de Jésus, sous l'angle de la sagesse, de se rappeler comment il est parfaitement sage, bon, on sent que ça fait du bien, et ça nous rassure. En fin de compte, le plus pressant, c'était de parler à cette femme. Tout le monde s'est trompé. Jésus a donc fait exactement ce qu'il fallait faire. Au bout de ligne. Mais personne ne le savait. Je suis certain qu'il s'est fait critiquer pour ça. Lui faisait exactement ce qu'il fallait faire. Parce que Jésus a des formations qu'on n'a pas. Donc, si toi, tu te trouves dans une situation que tu ne comprends pas les délais du Seigneur, puis le Seigneur te fait attendre, puis tu ne comprends pas, c'est frustrant. Rappelle-toi une chose, rappelle-toi de la sagesse de Dieu. Que lui, Jésus-Christ, a de l'information que toi, tu n'as pas. Lui a de l'information que toi, tu n'as pas. Et laisse-moi te dire une affaire. Si tu savais, là, si tu avais l'information que Jésus avait, tes prières changeraient. Tu ne prierais même pas de la même manière. Parce que tu saurais ce que le Seigneur t'en vient préparer, puis ce que le Seigneur t'en vient faire, derrière tout ça. Vrai? Tu peux penser à Jonah. Il y a bien des nouveaux là, ici, des gens qui se sont convertis dans les dernières années, tout ça, vous avez peut-être jamais entendu parler de Jonah, une fille de 16 ans, si ma mémoire est bonne, c'est 16 ans, et puis elle était dans un lac, belle jeune fille, saute dans un lac, accroche, je pense que c'est une roche, je ne me souviens plus, là, c'est une roche qu'elle a accroché le cou, là, puis elle est devenue paralysée. Tiens, juste la tête bouge, j'ai peut-être un muscle, je pense, si je me souviens bien, dans l'épaule, qui peut bouger, paralysée, la tête aux pieds, là, tiens, comme du cou jusqu'au pied, paralysée. C'est fait. Là, elle a commencé. Évidemment, la première fois qu'il arrive, hein, tu t'en vas à l'hôpital d'urgence, tu t'assèdes, puis les chrétiens se tournent autour, puis ils commencent à prier, « Ah, oh, Seigneur, guéris-la, guéris-la, guéris-la. » Puis elle a prié, « Guéris-la, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. » Mais ça veut quoi? Elle n'a pas guéri. Puis ça fait 35 ans qu'elle est encore dans une chaise roulante, obligée d'être transportée par son mari. Son mari, là, le marié, sachant tout ça, là, il la prend dans les bras, l'amène à la toilette, l'amène... C'est quel engagement! Elle, tu te dis, « Mais ça n'a pas de bon sens, tout ça, mais voici une affaire. » Le Seigneur a des formations qu'elle n'a pas. Et vous savez ce qui s'est passé avec sa paralysie? Le Seigneur lui a donné un ministère. Qu'elle est maintenant, elle est un encouragement maintenant pour des millions de personnes qui ont des paralysies, des problèmes physiques, des limites physiques. Elle a un ministère d'encouragement à travers le monde entier. Et puis ça fait 35 ans, ça. Elle a un ministère dans le monde, elle écrit des livres et tout ça, c'est phénoménal, l'encouragement qu'elle apporte à travers le monde entier. Là, aujourd'hui, elle regarde en arrière, elle dit, « Hey, mon ami Seigneur, il a tout un plan pour moi. » Et quand c'est arrivé, vous savez quoi? Elle ne comprenait pas ça. Là. Comment ça, une belle jeune fille, qui a tout son avenir devant elle, entre guillemets, gâchée, non pas gâchée, est devenue vraiment là, un pilier, un encouragement. Combien de gens, même, se sont convertis à Jésus-Christ à travers son ministère? Elle a une émission à radio, 8000 personnes la suivent sur Twitter, donne des messages d'encouragement et tout ça. Incroyable. Mais voyez-vous, on n'a pas l'information que le Seigneur a. Donc, rappelle-toi de ça, lorsque le Seigneur te fait attendre, rappelle-toi que le Seigneur, lui, est parfaitement sage. Il y a de l'information que tu n'as pas. Alors, pensons à la sagesse de Jésus. Il sait ce qu'on ne sait pas. Et ça va nous aider vraiment à accepter ces délais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On a besoin de considérer un autre angle aussi. C'est la grâce de Jésus-Christ. La grâce qui est manifestée ici à travers cette histoire. Maintenant, on peut comparer les deux, la chef de la synagogue. Il me semble que la priorité, c'est la chef de la synagogue par rapport à cette femme. Et pour quelques raisons. Premièrement, c'est une femme. comprenez-moi bien, dans la société de l'époque, les femmes avaient un statut comme, c'était vraiment laissé pour compte, de deuxième classe ici, là. Dans un contexte d'homme où l'homme avait plein pouvoir et tout ça, je le sais, c'est terrible. Vous avez fait du chemin, les femmes, on est bien contents pour ça. Mais à cette époque-là, c'est très difficile. Alors, la société s'attendrait à l'époque, avec la culture de l'époque, la société voulait même, à ce moment-là, mais certainement pas les femmes, en tout cas les hommes, s'attendait que Jésus aurait pris soin de ce bonhomme-là avant elle. C'est une femme. Non seulement ça, c'est le chef de la synagogue, c'est une personne qui est au sommet vraiment de l'échelle sociale, un chef de synagogue. Alors, elle est quoi? Elle est, selon l'Ancien Testament, cérémoniellement impure, parce qu'elle a une perte de sang. Et dans l'Ancien Testament, nous apprenons qu'une perte de sang, être indisposé de tout ça, te rendait cérémoniellement impure. Alors, elle est constamment cérémoniellement impure depuis plus de 12 ans. Elle n'a aucun droit de toucher à personne par peur de contaminer les autres. Parce que, vois-tu, entrer en contact avec une personne qui perdait du sang comme ça, tu devenais à ton tour cérémoniellement impure. Donc, qui tu vas favoriser? Le chef de synagogue qui est tout réputé pour être une personne pieuse, consacrée, qui donne son temps, même si c'est un homme d'affaires, donne son temps pour faire avancer l'œuvre, la cause des Juifs et tout ça en Israël, ou cette femme qui est impure. Voyez-vous, ça fait non seulement qu'elle est impure, cérémoniellement, mais ça fait 12 ans qu'elle l'est. Donc, la mentalité de l'époque, les chefs de religieux, les rabbins disaient que quand Dieu ne répondait pas à ta prière, ça c'est la mentalité que Jésus vient corriger, mais dans le temps, c'est que, écoute, ça fait 12 ans, puis tu pries, puis Dieu, c'est parce que tu es sous la malédiction de Dieu. On croyait vraiment que Dieu t'avait jugé, puis il y avait quelque chose, on te soupçonnait d'avoir quelque chose dans ta vie que tu cachais, puis que ça ne sera jamais réglé tant aussi longtemps que tu ne seras pas guéri. Voyez-vous comment que cette femme-là était socialement rejetée, brisée? Alors, la société se serait attendue que Jésus aurait donné la priorité à l'homme spirituel qui est le chef de la synagogue, ce n'est pas n'importe qui. Et non seulement ça, voici un homme riche. Un homme riche, elle est pauvre, elle avait dépensé tout son argent. On lit d'ailleurs dans le contexte qu'elle avait dépensé tout son argent pour essayer de guérir, trouver une sorte de médecin, tout ça. La plupart des médecins, c'était des rabbins dans le temps. Il y avait toutes sortes de recettes, toutes sortes de potions bizarres. On n'a pas le temps ce matin de regarder tout ça, mais il y avait toutes sortes de recettes pour essayer de guérir. Mais il n'y a rien qui a fonctionné, même au contraire, elle a empiré sa situation. Fait qu'alors, voici une personne pauvre. Alors, sur le rang social, là, tu es une personne riche. Alors, il me semble que tu devrais donner la priorité à la personne qui est riche, chef de la synagogue et tout ça. Mais Jésus fait tout à fait le contraire. Jésus fait attendre la personne la plus importante. C'est pas logique. Avez-vous vu comment Jésus va renverser les valeurs du monde? Jésus se tourne vers cette femme qui n'a aucun attrait social, zéro argent, zéro capacité, et lui donne toute son attention, comme si c'était la seule personne au monde, puis il fait attendre l'autre. Il dit, toi, attends. Il fait attendre un homme, un chef religieux, l'élite de la société de l'époque, et il le fait attendre au moment de son plus grand besoin. Pourquoi? Parce que Jésus ne suit pas au rang social. Jésus est attiré aux personnes les plus brisées, les plus amochées. Vous avez le portrait de l'Évangile juste ici. C'est ça, c'est exactement ça l'Évangile. Jésus renverse les valeurs du monde. C'est quoi l'Évangile? C'est la croix. Puis c'est quoi la croix? Bien, c'est comme bizarre, la croix. C'est contraire, ce qui est logique. C'est comme la folie, dit Paul. C'est une folie pour les gens qui rejettent ça. Ils regardent ça, ça n'a pas de bon sens. Moi, je me rappelle avoir témoigné à un rabbin à l'Université de Concordia à Montréal. C'est un juif, évidemment, c'est un rabbin. Et il dit, moi, c'est ça, je ne suis pas capable d'accepter, finalement. Comment Dieu pourrait permettre que son fils meure à la croix? Vous savez, il y a quelque chose d'illogique là-dedans, mais c'est ça l'Évangile. C'est contraire à la logique. Vois-tu, par exemple, en résumé, l'Évangile, c'est ça. Il dit, pour aller en haut, dans l'Évangile, quand tu parles à travers l'Évangile, pour aller en haut, il faut aller en bas. C'est le même. C'est le même Évangile. C'est bizarre. Pour aller en haut, il faut aller en bas. Le chemin au pouvoir, c'est le service. Pour avoir la vie, il faut que tu sois prêt de mourir. Pour avoir la richesse, il faut reconnaître que tu es, sur le plan de la richesse spirituelle, tu es démuni, tu es en faillite. Là, tu vas avoir la richesse. Le dernier, il sera le premier. On obtient la couronne en déposant la couronne, c'est-à-dire en s'humiliant. Vois-tu? Et c'est ce que Jésus est en train de faire. La dernière devient la première. L'Évangile, c'est ça. Place Jésus dans une foule. Et qui va aller voir? Enfin, Jésus ici, là, 200 personnes. Qui va aller voir? Il va aller voir la personne la plus brisée. Lui, c'est qui? Il va aller voir la personne la plus amochée, la plus brisée. C'est ça. C'est la grâce de Dieu. Jésus est attiré par des personnes qui ont gâché leur vie et qui ont une vie brisée. C'est ça, l'Évangile. D'ailleurs, Jésus avait cette réputation-là. Dans 1 Corinthiens 1, 27, ça dit ceci. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » C'est sa grâce. Alors, tu te rappelles de sa grâce, ça va t'aider à accepter les délais de Dieu. Comment Dieu, c'est un Dieu gracieux? Jésus est gracieux. Il va être gracieux avec toi. C'est propre à sa nature d'être gracieux, d'agir avec grâce. Alors, un, devant les délais, ce qui nous aide à accepter les délais de Dieu, là, c'est de regarder à sa sagesse, infiniment sage, de regarder aussi, il y a de l'information qu'on n'a pas, et deuxièmement, de regarder à sa grâce, et troisièmement aussi, c'est de regarder sa puissance. Regardez sa puissance. Jésus n'est pas énervé, là. Jésus vient juste de calmer une tempête, faire un miracle. Tu n'es même pas fatigué, tu n'es même pas transpiré. Il a calmé toute une tempête. Incroyable, la mer et tout ça. Tu calmes ça. Il a traversé, chassé des démons et tout ça. Mon ami, des milliers de démons. Ça ne l'énerve pas. Tranquille. C'est rien pour lui. Et là, il va faire face au plus grand ennemi, c'est la mort. Jésus, c'est rien pour lui. Alors que je me retrouve dans une situation que je ne comprends pas, et je demande à Dieu de s'en occuper de tout ça. À quelque part, je devrais me souvenir que, écoute, Jésus est capable de le faire. Hein? Jésus, il est vraiment capable, comme. Il a calmé la mer, là, puis c'est comme. Rappelle-toi de sa puissance. Ici, il va faire face à la mort. Le grand ennemi, c'est la mort. Puis regarde quelque chose de vraiment intéressant qui se passe, vraiment beau, verset 41, voici ce qu'il dit. Il dit, il se rend finalement à la maison de Jaïrus. Elle est morte. Mais il dit qu'elle dort, mais en fait, elle est morte. Mais vous allez comprendre pourquoi. Verset 41, il dit, il l'a pris par la main. Alors, il la prend par la main. Là. Il prend cette femme, cette jeune fille-là de 12 ans. Elle n'est pas encore tout à fait une ado. Ça, c'est important pour les ados. Là. Moi, ma petite fille, Ariel, elle a eu 13 ans. Puis elle dit, regarde, grand-papa, elle dit, je suis un ado. OK, là? Elle n'est pas tout à fait là. Elle a hâte d'arriver à l'adolescence. Elle a 12 ans. Mais elle est couchée. Alors, il la prend par la main. C'est beau, ça. C'est Jésus-Christ, il la prend par la main. Voici ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, « Talita kumi. » Non, ils l'ont traduit, « jeune fille. » Si tu traduis ça, « jeune fille », ça fait un peu distant, ça fait froid un petit peu. Tu trouves pas? Mais un gars, il a fait vraiment une recherche intéressante. Je pense, je me souviens plus du nom. Je pense que c'est Payne. Il a fait une recherche ici vraiment intéressante pour arriver à la conclusion que ça, c'était exactement l'expression que les mamans se servaient le matin pour les réveiller, leurs petites. Le matin, tu t'en vas dans la chambre, ta petite est allée à l'école, puis ça, tu t'en vas dans la chambre, tu t'assois à côté de ta petite qui dort. Puis, hey chérie, c'est le temps de se lever. Lève-toi, tu prends sa main, là. Hey chérie, trésor. Lève-toi, c'est le temps, là. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de faire. T'as l'idée de coumer, ça que c'est en train de dire. C'est comme s'il disait, trésor. Hey trésor, prends par la main, là. Hey trésor, lève-toi. Ça, c'est notre sauveur, ça. Puis c'est vraiment intéressant parce que là, il dit qu'elle est en train de dormir. Mais oui, mais elle est morte. Elle est en train de dormir. Les gens sont moqués de lui. Mais dans le fond, ce que Jésus est en train de dire, c'est que pour Jésus, même la mort, c'est simplement comme une bonne nuit de sommeil. C'est juste ça. Le Seigneur Jésus a vaincu la mort. Ne pas avoir peur de la mort. Même la mort va te rendre meilleur. Hein, on lit ça parce que nous autres, on a de l'information aussi avec le Nouveau Testament et l'Apocalypse, on sait ce qui s'en vient. Lorsque l'enfant de Dieu meurt, il rentre dans la présence de Dieu pour l'éternité, la joie, plus de larmes, de douleurs et tout ça. On rentre pour l'éternité dans le bonheur, parfait bonheur, pour l'éternité. C'est la joie. Alors, la mort qui nous rendait si apeurés maintenant à travers le sacrifice de Jésus-Christ, est quelque chose même à la limite qui n'est pas agréable, évidemment, mais hein, qu'au bout de ligne, on sait. Que pour Jésus-Christ, c'est comme un sommeil. Il y a quelque chose d'autre qui va nous attendre. On va se réveiller. J'imagine Jésus l'autre bord, là. Tendre la main. Viens-t'en. Entre. Voilà ce qui arrive quand notre vie est entre les mains de Jésus. Vois-tu, alors lorsque tu fais face à des délais dans ta vie, tu ne comprends pas pourquoi. Rappelle-toi premièrement. Jésus, de l'information que tu n'as pas. Alors rappelle-toi de la sagesse de Dieu. Rappelle-toi de sa grâce. Jésus est gracieux. Il est sensible aux personnes qui souffrent. Il sait que tu souffres. Il est très bien conscient, là. Tu n'es pas en bas de la pile. Nous sommes tous en haut de la pile. D'accord? Tous. Tu regardes la première feuille, en haut de la pile. C'est écrit quoi? Normal. Tu regardes en haut de la pile, c'est écrit qui? David. En haut de la pile? Ta femme en haut? Nicole. Suzanne. En haut de la pile? Parce que vois-tu, à ce moment-là, cette femme-là, qui était guérie, c'était comme s'il y avait des gens bien importants autour. Là. Mais voici la grâce. Jésus a fait que cette femme, c'est comme si elle était la seule personne sur la face de la terre. C'était la plus importante sur la face de la terre. C'est comme ça que tu devrais te sentir, que chacun d'entre nous, on devrait se sentir. On est en haut de la pile. Ton nom est là, là. Juste là. Alors, non seulement on regarde sa sagesse, parfaite sagesse, on regarde sa grâce, on regarde sa puissance, mais on regarde aussi son amour. Ça, c'est l'ultime parent. Jésus, c'est l'ultime parent. Vous savez, lorsqu'on est petit, là, lorsque votre mère, votre père, tient la main, on se sent en sécurité. Hein? Tiens la main, là, ça, tu te sens en sécurité. Tu rentres dans une foule, c'est agité, tu rentres au métro à Montréal, tu vois ça. Tu tiens la main, tu rentres dans un centre d'achat, tu tiens la main de ton enfant, tu te sens en sécurité. Tu rentres dans moins de lumière, tu rentres dans un secteur, c'est épeurant. Tu tiens la main, l'enfant se sent en sécurité. Mais même si on veut bien faire, même si on aime bien nos enfants comme parents, on va faire des erreurs. Hein? Il n'y a aucun parent qui est parfait. On va faire des erreurs. J'en ai fait un paquet. Combien de fois il a fallu que j'aille voir mes enfants? Je m'excuse. Puis les enfants, me semble, rendus à l'adolescence, ils aimaient bien ça. Ils étaient bien contents. Hey, je m'excuse, je me suis vraiment trompé de toi. C'était pas réciproque. Il venait pas tout le temps me voir avec joie, beau sourire, par exemple, quand c'était à leur tour de s'excuser. Mais c'est ça. On a fait un paquet d'erreurs comme parents. On n'est pas parfait. Mais Jésus, lui, est parfait. Jésus est l'ultime parent par excellence. Il ne fait pas d'erreur. Lui, c'est parfait. Fait que si, quand Jésus te tient la main, il ne glissera pas, lui. Il n'en faut pas d'erreur. Jésus est l'ultime parent. Et il nous tient la main dans les moments les plus critiques. Savoir que le Seigneur de l'univers, pense-y là, savoir que le Seigneur de l'univers, celui qui a dispersé les étoiles là, comme si c'était de la semence, là, me tient par la main. Il me dit, lève-toi, trésor, lève-toi. C'est le temps de se lever. Il est temps. Viens, là, on passe à travers une épreuve, ça va être difficile. Mais viens, je te tiens par la main. Là. Pourquoi on voudrait presser quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui nous aime autant. Pourquoi vouloir presser quelqu'un qui est parfaitement sage, incroyablement tendre, plein d'amour pour moi, un Seigneur de grâce qui ne veut pas m'écraser, qui n'attend pas que je fasse une erreur pour me sauter dessus. C'est pas comme ça qu'il pense. Puis il est parfait parent. Pourquoi je voudrais le presser, sachant toutes ces choses? Vrai? Alors comment un Dieu si saint, si parfait, peut-il tenir la main d'un gars si imparfait que moi, une personne si impatiente comme moi? Bien, 2 Corinthiens 13 le dit. Ça dit ceci, « Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons par lui, par la puissance de Dieu pour agir envers vous. » Alors, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Il y a des gens qui ont tiré la conclusion. « Ah, regarde, Jésus était faible, et tu regardes ça. » Mais c'est pas ça ce que ça dit, du tout. Murray Harris, qui s'est spécialisé vraiment dans le texte si grec, écrit un commentaire sur le Nouveau Testament ou ce livre-là, Corinthiens, 2 Corinthiens particulièrement. S'est arrêté sur ce passage-là, étudie, a fait une bonne étude assez exhaustive du passage. Arrive à la conclusion, il dit, la façon de comprendre cela, c'est vraiment ce texte-là, c'est que Jésus a choisi d'obéir à son Père jusqu'à la mort, dans le fond. Puis c'est exactement ce que dit Philippiens, hein, que Jésus a choisi d'obéir jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est un choix qu'il a fait. En d'autres mots, sa faiblesse fait référence aux limites qui s'est imposées. Il a limité l'usage de son pouvoir et de sa puissance Il a gardé une attitude non agressive tout au long de son arrestation. Un procès même, un procès tout à fait injuste, illégal, injuste, et à travers son sacrifice. 1 Pierre 2 dit ceci. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Jésus est devenu faible afin que je sois fort. Sur la croix, vous savez ce qui s'est passé? Sur la croix, Jésus a laissé la main de son Père. Sur la croix, le Père a enlevé sa main de la main de son Fils, afin que moi, je puisse avoir la main de Jésus pour l'éternité. C'est exactement ce qui s'est produit. Jésus est mort pour nous. Il est mort afin qu'on puisse ressusciter un jour. Et il a été crucifié hors du camp, devenu impur, afin que notre impureté puisse être réglée à la croix et qu'on soit purifié. Il a perdu la main de son Père afin qu'on puisse l'avoir dans notre main, ou être dans sa main plutôt. Et nous ne serons jamais, jamais abandonnés. Et c'est exactement ce que dit Jean 10, 28, qui dit, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. » Imagine-toi, tu es dans la main du Seigneur. Exactement ça. Parce que Jésus savait que pour avoir la couronne, il fallait passer par la croix. Pour avoir la résurrection, il fallait passer par la mort. Pour avoir la puissance, il fallait passer par la faiblesse. Alors, qu'est-ce que le délai de Jésus nous enseigne ici? Bien, pourquoi voudrait-on presser un tel sauveur qui est parfaitement sage, parfaitement tendre, parfaitement gracieux, parfaitement puissant et qui a perdu la main de son Père? Nous avons sa main parce qu'il a perdu la main de son Père. Nous avons maintenant le parent parfait. Pourquoi voudrais-je presser quelqu'un qui m'aime à ce point-là? Tu sais, quand tu penses à toutes ces choses, tu penses à l'Évangile et tout ce que le Seigneur a fait à la croix, comment il a tout abandonné afin que je devienne riche et que j'obtienne tout, afin que ma vie soit entre ses mains. Quand on pense à ça, à mesure qu'on y pense, notre cœur commence à s'attendrir. Et c'est comme ça qu'on est capable de faire face au délai que nous avons dans notre vie. Ça revient au chant qu'on a fait au début du service avec l'équipe de louanges, qui dit ceci, « Je suis humilié et brisé par ta miséricorde. » C'est qu'à mesure qu'on réfléchit, qu'on pense à tout ce qu'il a fait pour nous, et c'est ce que nous voulons faire maintenant avec la Sainte Seine, repenser au sacrifice de Jésus-Christ, notre cœur commence à fondre devant tant d'amour, puis là, on commence à accepter beaucoup mieux les délais du Seigneur. Alors, au bout de ligne, ça revient à ceci. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois seulement. Je suis parfaitement sage. Je connais tout. J'ai de l'information que tu n'as pas. Je suis parfaitement gracieux envers toi. Parfaitement puissant. Puis je t'aime d'un amour parfait. Amen.